VOA Afrique, les infos. À Washington.
Tatiana Mosso, dans moins de 10 minutes, notre magazine Carrefour Science et Santé, mais juste avant, le journal. En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Sekayapo, ex-aide de camp de l'ancienne première dame Simone Gbagbo, a été condamné aujourd'hui par un tribunal militaire d'Abidjan à 20 ans de prison pour assassinat durant la crise post-électorale 2010-2011. Toujours à propos de cette même crise ivoirienne, l'impartialité de la Cour pénale internationale est remise en cause. Human Rights Watch dénonce dans un rapport l'absence de poursuites par la CPI contre les pro-Ouattara. Les précisions d'Eddie Sango.
Human Rights Watch estime que la CPI aurait pu mieux faire son travail en Côte d'Ivoire. Dans ses rapports intitulés « Pour que la justice compte », enseignement tiré du travail de la CPI en Côte d'Ivoire, l'organisation internationale qualifie des maladresses la décision du bureau du procureur de limiter ses enquêtes initiales aux crimes commis par un seul camp lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Cette décision a affaibli l'impact potentiel de la Cour, selon Human Rights Watch. Fatou Bensouda a répété à maintes reprises que son bureau enquêterait également sur les crimes commis par les camps Ouattara, mais ne l'a pas encore fait en raison des moyens limités, assure-t-elle. Laurent Gbagbo et l'ex-chef des jeunes patriotes, Charles Blé Goudé, sont écroués à la haie où leur procès devant la CPI doit s'ouvrir le 10 novembre. L'épouse de Laurent Gbagbo, Simone, fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, mais Abidjan refuse son transfèrement à la haie.
En Afrique du Sud, fin des poursuites judiciaires contre Julius Malema, le leader des combattants pour la liberté économique, n'est plus poursuivi par la justice de son pays pour corruption en raison des trop nombreux reports de son procès ces trois dernières années. La justice a donc décidé qu'il pourrait être libre. Les explications de Rachid Bouda.
Le juge Billy Motol a annoncé la fermeture du dossier permettant à Julius Malema de retrouver sa liberté. D'après le magistrat, les accusés attendent d'être jugés depuis 2012. Après avoir été reporté de plusieurs mois en septembre, le procès avait été de nouveau ajourné lundi à cause de l'hospitalisation d'un de ses co-accusés. Le parquet a souhaité que les audiences puissent se tenir sans ce co-accusé ou qu'elles soient repoussées une fois de plus, mais ces deux alternatives ont été refusées par le juge. Âgé de 34 ans, Julius Malema était accusé depuis 3 ans d'enrichissement illicite en rapport avec un appel d'offres de 3,7 millions d'euros pour l'entretien des routes de la province du Limpopo dans le nord de l'Afrique du Sud. Il est présentement libre, mais l'État sud-africain peut décider de le poursuivre à nouveau à travers une nouvelle procédure.
En RCA, le calme est revenu dans le 3e arrondissement de Bangui au lendemain des violences meurtrières de ces dernières 48 heures. Des violences qui ont fait au moins 5 morts, dont un casque bleu de la MINUSCA. Le point avec notre correspondant à Bangui, Frimal Sipila.
Après l'offensive menée lundi matin par les forces de la MINUSCA dans le secteur de Pika 5, le calme semble revenu dans les zones secouées par les heures de dimanche à lundi. La circulation a repris dans l'après-midi sur les principales artères du 3e arrondissement. Des commerces ont rouvert leurs portes et certains habitants déplacés ont commencé à regagner leurs habitations. La force onusienne multiplie ses patrouilles et accroît sa présence dans le secteur. Nous contrôlons la situation et nous sommes en train de prendre contact avec les populations pour leur expliquer l'intérêt de notre opération, a indiqué Amadou Ntoré, porte-parole de la MINUSCA. Dimanche, une patrouille de l'unité de police constituée de la MINUSCA a été prise à partie par une bande armée dans le quartier PK5 alors qu'elle tentait d'arrêter sur mandat du procureur un homme recherché par la justice pour plusieurs crimes. Bilan, au moins 5 personnes, dont un policier camerounais de la MINUSCA tué, plusieurs blessés et 3 suspects arrêtés. La force onusienne a annoncé que l'opération se poursuivra jusqu'à ce que la sécurité de la population soit garantie. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Triste bilan en Europe, le cap des 2000 migrants morts cette année en mer Méditerranée a été franchi ce week-end. Malgré le danger, nombreux sont ceux qui tentent toujours de gagner l'Europe par la mer avec l'aide de passeurs. Léonard Doyle est le porte-parole de l'Office international pour les migrations. Il a été joint par Nicolas Pinault à Genève.
C'est beaucoup plus jusqu'à ce moment que l'année dernière. L'année dernière, c'était 1600. Tous les gens qui fuient le Moyen-Orient essaient de traverser la Méditerranée. Ils sont dans les mains des passeurs. Ils sont dans les tout petits bateaux. Le problème est beaucoup pire cette année que l'année dernière. Les problèmes dans le monde sont pires. Les problèmes en Syrie, en Irak, les problèmes en Érythrée, les problèmes partout. Soudan, il y a des gens qui viennent de Soudan qui disent qu'ils sont là à travers des problèmes de droits de l'homme.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta, qui devait se rendre en Égypte, a annulé son déplacement pour raison de sécurité intérieure après deux attaques djihadistes ayant fait 13 morts en 3 jours parmi les militaires maliens. Selon son entourage, il devait assister jeudi à l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée, cérémonie à laquelle il avait été invité par son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. En République, la République de Djibouti a ressuscité sa compagnie aérienne, l'une des plus anciennes du continent africain, et en a confié la gestion à un chef d'entreprise pas comme les autres, le chanteur du légendaire groupe de hard rock Iron Maiden, Bruce Dickinson. Air Djibouti a effectué lundi son premier vol depuis 2002, marquant la renaissance de cette entreprise d'État qui devait redémarrer le transport au mois de novembre. La Société Générale, cette banque française, est citée dans une enquête sur une affaire de biens mal acquis en France par Théodorine Obiang, le fils du président équato-guinéen, un dossier de détournement présumé de fonds publics.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Yémen, les forces luttant contre les rebelles chiites houthis ont repris une importante base militaire située à environ 60 km au nord d'Aden. Cette victoire devrait permettre aux partisans du président Abd Rabbou Mansour Hadi, contraint à l'exil en Arabie Saoudite, de sécuriser cette ville portuaire et d'élargir ainsi leur territoire. La base aérienne d'Al-Nadad est tombée aux mains des loyalistes après plusieurs jours de combats et grâce à l'appui aérien de la coalition régionale. Selon des sources pro-gouvernementales, 70 rebelles chiites et 24 combattants sunnites sont morts dans ces affrontements. Alors que la Turquie poursuit sa campagne militaire contre les rebelles kurdes dans le nord de l'Irak, l'Union européenne et les États-Unis ont appelé Ankara mardi à la retenue. La Turquie a le droit de se défendre, disent-ils, tout en préconisant une réponse proportionnelle dans les frappes aériennes menées contre le PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. Depuis le début des hostilités, le 20 juillet, le PKK a perdu au moins 260 combattants et tué au moins 18 militaires turcs. Enfin, les feux de forêt qui font rage dans le nord de la Californie ont doublé d'intensité et menacent maintenant des habitations et des commerces, tout en s'élargissant à d'autres états du nord-ouest. Idrissa Seydoudia nous en dit plus.
Le sinistre couvre maintenant plus de 260 km², malgré les efforts des milliers de pompiers dans cet état frappé par la sécheresse. Il a atteint l'autre côté d'une autoroute qui devait constituer une barrière et s'est étendu plus loin encore, bien que le climat se soit rafraîchi et on dit l'humidité plus grande maintenant. Aucune autre maison n'a été brûlée aujourd'hui après les 24 déjà détruites, en même temps que 26 dépendances dans le secteur de Lower Lake, situé au nord de San Francisco. Les autorités ont demandé à 13 000 personnes d'évacuer 5 500 maisons. Une bonne partie de ces feux de brousse a été causée par la foudre et a été propagée par une combinaison d'arbres secs et de vents violents. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a déclaré l'état d'urgence et ordonné à sa garde nationale d'aider à faire face aux sinistres et à ses dégâts.
Et toujours aux États-Unis, le secrétaire d'État américain John Kerry se montre optimiste quant aux négociations sur l'accord de libre-échange de la zone transpacifique. Les 12 nations prenant part au pourparlers ont fait des progrès significatifs, a dit le chef de la diplomatie américaine.
Under this pact, every participant will have to comply with core international labor and environmental standards.
Lors d'une escale à Singapour, John Kerry a signalé que l'accord comporte entre autres des clauses sur la protection de l'environnement et des conditions de travail. Ces négociations traînent depuis des années. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui en Afrique sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.